Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Elisabeth Borne, première ministre, la deuxième à occuper ce poste, 31 ans après la nomination d'Edith Cresson, qui a salué, je cite, « un très bon choix, car c'est une personne remarquable, pas parce que c'est une femme ». Sur le perron de Matignon, lors de la passation de pouvoir, Elisabeth Borne lui a rendu hommage hier avec un mot aussi pour les prochaines générations.
Je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
Une femme à Matignon, un symbole souligné par la classe politique, du Rassemblement National au LR, en passant par le Parti Socialiste jusqu'à la France Insoumise. Des partis qui n'ont en revanche pas retenu leur coup sur le profil politique de la nouvelle Première Ministre.
Oui, qui était aussi ancienne ministre des Transports, de la Transition écologique, puis du Travail jusqu'à dimanche. Elisabeth Borne a traversé tout le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, avec des chantiers phares comme la réforme de l'assurance chômage ou celle de la SNCF. Aurélien Fleureau, dans les deux cas, elle n'a pas laissé que des bons souvenirs aux syndicalistes.
Oui, ce qui revient le plus souvent dans la bouche des interlocuteurs qui ont croisé Elisabeth Borne autour d'une table de négociation, c'est l'image de grand serviteur de l'État, de la technocrate femme de dossier qui applique à la règle la feuille de route qui lui est confiée, de manière trop intransigeante et sans réelle capacité d'écoute. Se souviennent tous les syndicats de cheminots de la SNCF qui ont bataillé tellement dur avec elle au printemps 2018 qu'ils avaient fini par boycotter les rendez-vous au ministère des Transports et demander à être reçus directement par Édouard Philippe à Matignon. Celle qui fut directrice de cabinet de Ségolène Royal fait actuellement partie de Territoires de Progrès, mouvement social-démocrate au sein de la majorité. Politiquement issue des rangs de la gauche, elle a pourtant acté la fin du statut des cheminots, réformé l'assurance chômage pour durcir l'accès à l'indemnisation et n'hésite pas à dénoncer les dérives de l'assistanat. Dans les mois qui viennent, les syndicats s'attendent donc à trouver en face d'eux une adversaire coriace, notamment sur le dossier des retraites. Selon un proche collaborateur, quand elle a un objectif en tête, elle ne le lâche pas.
Et Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Et l'objectif d'Elisabeth Borne, ce sont aussi les élections législatives. La première ministre jamais élue pour l'instant se présente en juin dans le Calvados.
Le règlement va changer dans les piscines municipales de Grenoble. À partir du 1er juin, le burkini sera autorisé dans les bassins.
Une mesure validée hier soir en conseil municipal. 6 heures de séance et un vote serré 29 à 27. Après Rennes, Grenoble est donc la deuxième ville de France à autoriser ses maillots de bain couvrants dans ses piscines. Cette réforme était poussée depuis près de 3 ans par Alliance Citoyenne, une association très critiquée par l'opposition, Alexis de la Fontaine.
Oui, à commencer par ses méthodes agressives, plusieurs fois ses membres ont forcé l'entrée des piscines municipales pour se baigner en burkini. Ou encore la création de son équipe de foot, les hijabeuses, pour réclamer l'autorisation du voile dans les compétitions officielles. Mais son financement interroge également. L'association qui aurait de l'influence sur Éric Piolle touche des milliers d'euros de la mairie de Grenoble qui refuse de dévoiler le montant précis et de 80 000 euros du milliardaire controversé George Soros. En 2021, Gérald Darmanin avait demandé à la Commission européenne d'annuler sa subvention de 60 000 euros à l'association, car selon lui, elle porte atteinte aux valeurs de la France, mais sans résultat. Enfin, selon Le Parisien, cette association, qui se revendique féministe et anti-islamophobie, organise un fichage des Grenoblois, avec le détail de leurs croyances, leur origine ou même leur état de santé à des fins électorales.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Ils sortent de l'enfer d'Azovstal, plus de 260 soldats ukrainiens évacués de l'usine de Mariupol par les forces pro-russes. Ils devraient être rapatriés en Ukraine grâce à une procédure d'échange. Kiev qui a repris le contrôle de la frontière près de Kharkiv au nord, une première depuis le début de la guerre.
L'Ukraine qui fera aussi partie des incontournables du Festival de Cannes. Plusieurs films tournés dans le pays font partie de la sélection officielle.
Et la grand-messe du cinéma démarre aujourd'hui. Cérémonie d'ouverture à 19h. Retour des strass, des paillettes et des touristes aussi. Après 2 ans de pandémie, ils retrouvent la croisette et aussi notre correspondant Frédéric Michel.
Indien, anglais, allemand, devant le palais des festivals, on parle toutes les langues. Louis Paul est venu couvrir la quinzaine du cinéma pour un média québécois.
Ça fait plaisir de revenir. Je le retrouve comme il était. J'étais pas venu l'an dernier. J'ai hâte de commencer le festival, avec le soleil en plus.
Hôtel Martinez, concierge, good morning.
À l'hôtel Martinez, la clientèle est à 80% étrangère. Yann Gillet est le directeur général de l'établissement.
C'est quelque chose qui nous a surpris de voir un démarrage aussi rapide avec la clientèle internationale, surtout une clientèle américaine, sud-américaine, du Moyen-Orient qui revient en force. On n'a pas que les stars, on a bien sûr les festivaliers, puis on a aussi quelques touristes qui découvrent l'ambiance festival.
Même le célèbre gang des escabeaux installé devant les marches du palais accueille des chasseurs d'autographes du monde entier. Joe a 35 ans de festival à son compteur.
On a commencé par un escabeau de deux marches, pas trop haut. Et puis comme on n'y voyait pas assez, on a mis un plus haut et plus haut. Et puis les gens ont suivi. Le dernier, j'ai compté, il y en avait 127 escabeaux. Chanel en face, il nous prend pour Castorama, il a dit.
Et c'est ça aussi la magie de Cannes, la rencontre de passionnés du 7e art venus du monde entier.
Le reportage de Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans les Alpes-Maritimes.
Et c'était le journal Perché de Roman Hockey. Merci beaucoup, Roman.
À 16h05, on passe au sport.